Rencontre spirituelle, aujourd'hui, sera question, c'est une émission spéciale, sera question de d'essayer de savoir s'il y a une spiritualité pour nous, les laïcs. Est-ce qu'il y a une spiritualité particulière? On dit qu'il y a une spiritualité pour les jésuites, une spiritualité pour les sœurs de la congrégation Notre-Dame, elles sont héritières de Sainte-Marguerite Bourgeois. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mardi dernier, en parlant de leur fondatrice qui a laissé des textes magnifiques. Et ainsi de suite, hein, on n'en finirait plus. Les dominicains, les bénédictins, etc. Et alors, les laïcs, est-ce qu'il y a une spiritualité? Est-ce qu'on peut aller la puiser dans les paroles de Jésus? Quelle spiritualité? Ben, il faut dire dès le début que la première caractéristique d'une spiritualité de laïc, il me semble, c'est d'être une spiritualité en plein monde. Le Christ Jésus nous a bien laissé sur ce point, par l'intermédiaire de ses disciples, des directives. Hein? Des directives qui peuvent paraître contradictoires parce qu'il leur dit à un moment donné, « Vous n'êtes pas du monde. Malheur au monde à cause des scandales. » Puis, il prie son père et il dit, « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde. » Ça a l'air contradictoire, hein? Puis enfin, il ajoute, « Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. » Alors, à cause de ces paroles de Jésus, les gens ont compris assez rapidement dès le début de l'Église. Oui, ils ont saisi tout de suite, les premiers chrétiens, que le détachement du monde, que le Christ nous demande, c'est quoi? C'est un détachement de l'esprit du monde, j'oserais dire de la niaiserie et du péché. C'est pas une séparation matérielle, pas du tout. Et les premiers chrétiens, d'ailleurs, ont vécu comme ça au milieu de tous. Dans tous les états de vie, il y avait des gens très à la haute direction qui ont été pris puis martyrisés, puis il y avait des esclaves aussi. Il y avait des gens de toutes sortes. Et nous sommes tous, nous, les laïcs, nous sommes tous appelés, non à une vie chrétienne tant bien que mal préservée, là, dans nos petits bunkers, comme disent certains, dans nos petites maisons, dans nos petits appartements, dans nos petits ermitages privés. Mais nous sommes appelés à une vie chrétienne pleinement développée. Qu'il y ait des ermites parmi nous dans des villes, il y a des vocations pour ça, qui prient, des priants. Je ne suis pas contre. Mais dans l'ensemble, des couples mariés qui élèvent des enfants ont une tâche et un devoir d'État extrêmement important dans leur amour réciproque et l'éducation des enfants, mais aussi dans l'engagement dans leur société autour d'eux. C'est pas tout le monde qui a besoin des autres. Mais les autres ont besoin de nous, souvent. Et le monde, en particulier dans son ensemble, a besoin de notre présence chrétienne. Pourquoi? Pour qu'on leur rappelle, calmement, posément, surtout par notre exemple, pour faire ce que le monde a d'abord à faire. Qu'est-ce que le monde en son ensemble a à faire? C'est de rendre gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Des mots? Non, pas du tout. Rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire reconnaître Dieu comme notre Créateur et qui nous aime. Puis, rendre gloire à Dieu, ça veut dire s'enivrer de son amour. Et quand on rend gloire à Dieu à la messe, ça veut dire s'enivrer de son amour, hein? C'est pas simplement dire « Saint, 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 le Seigneur du bout des lèvres ». Non, c'est s'enivrer de l'amour de Dieu pour nous. Dans l'informateur catholique d'il y a un an, le 18 janvier, Michel Boulevard, qui est une excellente journaliste catholique, nous rapportait que trois évêques de chez nous, Monseigneur Gaumont, André Gaumont, Monseigneur Roger Ebacher, et puis Monseigneur Jacques Berthelet était revenu d'un synode à Rome. Et puis, j'aime bien ce que Monseigneur Berthelet dit, l'évêque de Saint-Jean-Longueuil. Il dit, la nouvelle évangélisation ne se fera pas sans que les laïcs prennent conscience qu'ils ne peuvent vivre leur profession et leur état chrétien en parallèle. On peut pas séparer nos actions, nous, les laïcs. Tout doit être imprégné du Christ. Il dit d'ailleurs, on a absolument besoin, cet évêque dit, on a absolument besoin d'aider les baptisés à développer la conscience que tous les chrétiens portent la mission de l'Église. Oui, nous portons tous la mission de l'Église. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, essayer d'aller là-dedans. Ben, d'ailleurs, vous savez tout ça, mais je vais essayer de vous rappeler des vérités que vous savez déjà. Monseigneur Berthelet ajoute, ceux qui sont dans les domaines de l'éducation, de la santé, là, puis de la politique, oui, de l'économie, oui, les banques, les placements, les assurances, etc. Dans le domaine des médias, même à Radio-Canada, mais particulièrement à Radio-Île-Marie, nous devrons prendre conscience de ça, mais dit, tous ces laïcs-là ne peuvent pas y être sans comprendre qu'ils ont, à l'intérieur de l'Église, une mission. La leur se situe au cœur du monde, hein, voilà, au cœur du monde, où le Christ nous a placés. Parce que Dieu ne nous arrache pas au monde. C'est l'esprit du monde qui doit s'arracher, qu'on doit arracher du fond de notre cœur. Hein. Alors, Mgr Berthelet dit bien, leur mission se situe au cœur du monde. Ils n'y sont pas uniquement avec leurs compétences professionnelles, mais aussi comme chrétiens. Et il ajoute, on a peut-être négligé le service évangélique du monde. Vous savez, les protestants parlent souvent des évangéliques, les évangéliques, nous aussi. On a peut-être négligé le service évangélique du monde. On a formé des gens uniquement pour l'interne, c'est-à-dire pour travailler dans l'Église, dans des bureaux, etc., dans l'administration de l'Église. On a maintenant besoin d'habiliter, dit Mgr Berthelet, d'autres personnes pour l'externe, c'est-à-dire dans le sport, partout. Dans l'économie, dans la politique. Et il termine en disant, la nouvelle évangélisation est devenue quelque chose de plus urgent pour moi. Les premières fois qu'on en a entendu parler, ça ressemblait à un slogan, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est fait pour nous. C'est paru dans l'Informateur catholique. C'est un journal catholique. Il n'y a pas grand monde qui est abonné à ça. Je me demande pourquoi. Parce qu'il y a souvent de très bons articles dans l'Informateur catholique qui est publié à Chersey, tout près de Montréal. Et ça, c'est le numéro du 18 janvier 1898, il y a un an hier. Alors, il s'agit donc de vivre dans ce monde. Et dès le début de l'Église, on a pris conscience que les occupations du monde, de la vie de famille et du travail n'étaient pas incompatibles avec le plein épanouissement de la vie chrétienne. Ça va ensemble, ça se sépare pas. La première attitude du laïc chrétien va donc être de considérer que, malgré son engagement dans le monde, il peut préserver une vie intégralement chrétienne et poursuivre la perfection, la sainteté. Cette vie n'est pas réservée aux sœurs puis aux moines. Hein? Oui, c'est ouvert aux laïcs dans le monde. C'est déjà énorme, mais pourquoi? C'est que toute condition de vie est ouverte à la sainteté. Nous sommes tous appelés. Oui, tous sont appelés à la sainteté. Oui, vous, madame. Toi, jeune homme, là. Et moi aussi, évidemment, qui est en difficulté. Tout le monde, nous sommes appelés. Dans Jalon pour une théologie du laïcat, du père Congar, paru il y a déjà bien longtemps, 1953, un livre énorme qui avait fait sensation. Il dit des choses magnifiques à un moment donné. Il dit, oh mon Dieu, nous remarquions plus haut là, dans son livre que l'hagiographie, les vies de saints, celle des légendes du bréviaire qu'on trouve dans le livre de prière des prêtres, hein, puis aujourd'hui de bien des laïcs, eh bien, nous remarquions que l'hagiographie, les vies de saints, avait présenté jusqu'ici un type de sainteté se réalisant dans des actions spéciales. Que je vous raconte à l'occasion de temps en temps, hein, celle d'une ascèse et d'une vertu de ligne monastique. D'où, pour les laïcs, c'est souvent une impression d'extraordinaire et d'inaccessible. On se dit, nous autres, on peut pas être des saints, il faut être des moines. Et le père Congar ajoute, Dieu semble nous donner maintenant en modèle, outre les saints des époques sacrales, des hommes dont la sainteté se réaliserait dans des actions ordinaires, identiques à celles que nous sommes appelés à faire, mais accompli pour Dieu et pour son règne, avec une perfection d'amour et d'obéissance à sa sainte et sanctifiante volonté. Alors, il cite différents noms, et en particulier, il cite Léon Armel, dont je vais vous parler, Élisabeth Le Sœur, qui était mariée, dont je vous ai déjà parlé, et puis la petite Anne de Guigné, les gens plus âgés se souviennent de lui, d'elle plutôt, et puis Frédéric Ozanam, dont je vous ai parlé, Pier Giorgio Frassati aussi, ce sont des bienheureux, ça. Des laïcs, Pier Giorgio Frassati, c'est un jeune homme, un jeune homme dans la vingtaine, qui était béatifié, merveilleux, courageux, solide, un sportif. Mais il suffit de formuler une telle spiritualité, me semble, pour saisir immédiatement qu'on ne peut en rester là. L'attitude spirituelle d'un catholique, un chrétien aujourd'hui dans le monde, là, ne sera plus de penser que malgré sa vie de famille ou son travail, il peut, malgré tout, peut-être, conserver assez de piété puis de ferveur intérieure pour être pleinement chrétien. Pas du tout, c'est pas malgré. C'est au cœur de sa vie de famille, au cœur de son célibat, au cœur de son travail. Il sait maintenant qu'à cause même de cette présence au monde, à la famille puis au travail, là, il est appelé, le chrétien, catholique, à un développement de vie chrétienne, qui est sa vocation personnelle, à la sainteté. Et ainsi, c'est la réaction chrétienne du laïc en face de la vie qui a changé. De négative, elle est devenue positive, et il ne pense plus tellement fuir le monde qu'à s'y engager. Il le regarde du regard du Christ. Il y entre, si l'on peut dire, dans l'élan même du Christ venant en ce monde pour le sauver, le libérer. Il entre d'une manière nouvelle, à sa place, dans le mystère, là. Dans le mystère d'incarnation. Il faut s'incarner. Et il consent pleinement sa condition. Il saisit dans sa vie, en plein monde, une forme d'imitation du Christ. Et puis, il s'agit plus seulement pour lui de se préserver du monde, mais d'y entrer. Comme le Christ, venant en ce monde, hein, une série d'attitudes nouvelles à la rencontre de la vie et des autres qui découlent de ce principe. Le frère Gérard Champagne, des Frères des Écoles Chrétiennes, m'a envoyé une liste de laïcs béatifiés, canonisés par Jean-Paul II, de 1980 à 1997, ça se termine au mois d'août 1997, la liste n'est pas complète, j'imagine. Et ce sont tous des laïcs qui ont été béatifiés ou canonisés, il y en a 28, ça comprend évidemment Frédéric Ozanam que vous connaissez, mais aussi Pierre Taurotte, là, d'Asie, et puis des gens merveilleux comme une mère de famille, Élisabeth Canori-Mora, dont je voulais vous parler dans quelques jours, le 5 février. Et puis, Jean Diego, n'est-ce pas, qui a eu l'apparition de Notre-Dame de la Guadeloupe, qui va être canonisé dans quelques jours, quand le pape va aller au Mexique, et dont je vous ai parlé le 12 décembre 97. Puis Pier Giorgio Frassati, hein, ça a été fait le 6 avril dernier. Puis Laura Vicuña, vous vous souvenez, la petite fille, 22 février 96. Puis Marcel Callo, ah, un jeune homme français formidable, dont je vais vous parler le 19 mars, etc., etc. Je pourrais vous dire que j'en ai parlé de bien d'autres, mais on va arrêter ça. Et puis, il faut bien se rendre compte que le laïc découvre chaque jour sa vocation propre dans l'Église. Ce pourquoi Dieu l'a mis au monde, l'a envoyé dans le monde. Sa mission. Cette mission, c'est précisément d'être là, là, pour y porter la vie du Christ, la présence et la révélation de Dieu, la communication de sa vie. Ah, je me souviens, en 82, des femmes, des laïcs, qui s'occupaient, des infirmières qui s'occupaient de ma mère, qui se mourait à la résidence Sainte-Dorothée. Mais c'était des laïcs extraordinaires, remplis de cette mission. C'est pourquoi un signe caractéristique de cette spiritualité du laïc sera le sens apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, apostolique? Il y a bien du mot apôtre, comme vous le savez tous, hein. Je parle pour les jeunes qui se demandent devant des mots comme ça, trop longs. Mais le laïc ne peut concevoir sa vie chrétienne que comme une mission dans le monde pour y porter le Christ. Il n'y a pas deux temps dans la vie chrétienne. Un temps de vie personnelle puis un temps de vie sociale. Non, non. Dans sa vie intime, comme dans son action, le laïc reste lié à toute la vie du monde. Oui, nous sommes liés, nous, à toute l'action de l'Église, mais, oh, en somme, tous les chrétiens, mais particulièrement nous, les laïcs dans le monde, plus que les moines dans leur monastère ou les moniales, qui, elles ou eux, par leur prière, d'accord, mais nous, c'est différent. La prise de conscience de notre personnalité humaine, puis de notre vie chrétienne, se fait comment? Ben, à partir de ce que nous avons à faire. Où nous sommes? Où sommes-nous? Où sommes-nous? C'est le grand danger de ce monde du travail technique. Travail à la production, à la chaîne qui nous détruit, les logements trop petits qui nous écrasent. Et surtout, tous ces spectacles immenses qui nous étourdissent et qui étourdissent notre jeunesse au spectrum, puis à tous ces endroits, puis tout, ils sont pris par des chanteurs, des chanteuses, des spectacles juste pour rire, etc. Puis le temps passe. Les jeunes sont dépersonnalisés, il faut tout ce qu'ils fument à 12, 13, 14 ans, ou presque, hein, on a des statistiques, c'est presque la moitié, c'est terrible. Et il n'y a pas rien que ça, il y a la mode, il y a les coutumes, les affaires, tout le monde le fait, fait-le donc, et personne va à l'église, personne veut y aller. Ah, à partir du moment où ils entrent dans la vie, les pauvres jeunes sont dépersonnalisés. Aujourd'hui, c'est évident, il faut porter des vêtements, il figure, puis etc., à l'heure où ils devraient devenir eux-mêmes, eh bien, leur travail, leur logement, leurs loisirs, leurs vêtements les rendent semblables à tout le monde autour d'eux. Tout ça les plonge dans la masse. Or, la seule issue de cette situation qui dépersonnalise les jeunes, c'est l'action apostolique. Non pas sortir de la masse, non pas se perdre dans la masse, non, mais agir au sein de la masse des gens. Comme, je dirais, ceux qui sont à Radio Ville-Marie, qu'on entend de temps en temps, chaque semaine, les rameurs sans frontières, sous la conduite d'un frère mariste, dont le fondateur va être canonisé bientôt et dont je vais vous parler, le frère Marcelin, le père l'abbé Marcelin Champagnat. Eh bien, les rameurs sans frontières, puis tant d'autres jeunes groupes de jeunes, devrais-je dire, qui se forment ici et là au Québec, hein, mais ils agissent au sein de la masse, et lentement, par des gestes minimes, mais conscients, réfléchis, par des gestes qui les ouvrent sur les autres, qui les insèrent dans les problèmes humains, bien, ces jeunes-là deviennent des personnes. Que le jeune essaie de pénétrer de l'esprit du Christ, ses rapports humains, son travail, voici que, progressivement, ce jeune accède à une foi personnelle, c'est ça qui compte, hein, et qui lui fait découvrir le Christ comme son libérateur, son sauveur. Et puis, ça lui permet d'accéder à une religion immédiatement liée avec sa vie. Et nous savons tous que cette découverte est lente et difficile. Elle ne se fait pas dans le simple prolongement du catéchisme. Que je ne renie pas, le catéchisme est très important pour savoir qu'est-ce qu'on doit croire, comment on doit se conduire. Ça se situe pas simplement aussi dans le simple prolongement, simple déploiement de l'action. Non. Cette découverte vient de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit Saint. La grâce, c'est pas une petite fille blonde. C'est l'Esprit Saint. Ça vient de l'Esprit Saint. La grâce. Et ça exige un dépassement de toutes les visées humaines pour entrer dans le monde de la foi. Qui est le plus beau monde qui soit, ça, vous le savez tous. Hein. Cela suppose une véritable transformation de la personnalité du jeune et de sa vocation dans le Christ. Il faut changer de plan. Mais les simples engagements de la vie sont encore la meilleure préparation pour se rendre réceptif à l'action du Christ. Ben oui, celui qui fait la vérité vient à la lumière, dit-on. Hein? Le jeune qui fait la vérité, comme chez les rameurs sans frontières, vient à la lumière. C'est eux qui montent des pièces de théâtre, des vies de saints, des choses de nos fondateurs ici, et qui font toutes sortes de choses admirables. Les rameurs sans frontières. Ils sont tout près de Radio Ville-Marie, juste à côté. Au coin de Fleury et Meilleur, à Montréal. Ils auront une grande vente de livres en fin de semaine, pour essayer de ramasser des fonds et mieux faire leurs travaux. Nous savons aussi que pour celui ou celle qui a fait au jour de sa jeunesse cette découverte, elle sera généralement définitive et orientera toute sa vie. Oui. Voilà la solution de la difficulté majeure de cette vie laïque. Une vie en plein monde, d'accord, mais comment vivre en plein monde sans se laisser gagner par l'esprit du monde? Ah. L'esprit de gain, l'esprit de haine, l'esprit de jouissance. Jusqu'où aller dans la participation aux activités de ce monde? Quoi faire? La plupart de ces activités sont terriblement imprégnées par l'ambiance du péché, on le sait, hein. Oh, il y a toutes sortes de problèmes concrets qui surgissent pour nos jeunes et pour tout le monde et pour nous-mêmes, les adultes de 72 ans. Oui, c'est chaque jour, quand on participe à toute la vie ou qu'on ouvre la télévision ou qu'on sort, le péché est toujours là, tout près. Oh, je veux pas faire peur au monde, là. Mais la limite est facile à tracer entre ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut refuser. Et cette limite rejoint celle-là même que le Christ a adoptée en entrant dans ce monde. On la connaît bien. Il a tout pris de la condition humaine, hormis le péché, Jésus. Il s'est pas dit, tout le monde le fait, fais-le donc. Pas du tout. Pas de péché, Marie non plus. Mais dans le concret, comment se préserver de la contagion d'un milieu où le péché règne sous toutes sortes de formes? Voilà bien notre problème à nous, les laïcs, et en fait, il faut découvrir, là encore, qu'il n'y a pas d'autre préservation possible contre un milieu de péché qu'une action sur ce milieu. Il faut agir. Et c'est donc une attitude positive, positive qu'il faut adopter. Puis la seule manière de ne pas entrer en connivence avec le péché, ben, c'est de réagir contre le mal. Et de se dire au fond de soi-même, abat le mal. Abat le mal. La seule manière de n'être pas gagné par l'esprit du monde, c'est d'agir dans l'esprit du Christ. De tomber en amour, quoi, avec lui? Comme avec un maître, un frère, notre Dieu. C'est donc son action apostolique qui va aider le laïc en étant apôtre. Il va prendre donc conscience des traces du péché dans sa vie, dans les milieux où il vit, puis il va s'imposer des renoncements nécessaires, ça prend ça, non seulement pour sa préservation personnelle à lui, mais pour la transformation de son milieu. Puis là, les renoncements, il y en a tellement de renoncements. Les plus exigeants ne sont acceptés que s'ils nous rendent libres. Et c'est la découverte des dimensions vraies du mystère de la croix. Et la croix libère. C'est Jésus qui l'a dit. Il le dit à tout instant. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. Et aujourd'hui, il est question de la spiritualité des laïcs, notre spiritualité. Il y a tellement de livres qui sont parus là-dessus, même dans au Concile Vatican II, Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, c'est une constitution pastorale extrêmement importante. Il y a même les enseignements pontificaux depuis des siècles ont été publiés comme ça par Desclés, ça s'appelle le Laïcat. Il y a toutes sortes d'articles dans toutes sortes de revues depuis des années et des années. On a publié, même quand j'étais plus jeune, « La doctrine spirituelle des hommes d'action » de François Charmeau aux éditions Spes. C'est très ancien. Ou « La vie spirituelle des laïcs » de Francis Hermance. On avait lu ça aux éditions du Levain. Oh, c'est en 50 quelque chose, ça, 54. Eh bien, il y a toutes sortes de choses aujourd'hui qu'on peut lire aussi, hein, qui est paru il y a pas longtemps. C'est « Pour grandir dans la foi » de Louis Saint-Tasse, un jésuite, pour grandir dans la foi, publié à Toulouse. Il y a des belles choses là-dedans, mais il y en a tellement. Allez dans les librairies, fouillez, vous verrez. Parce que la spiritualité du laïc, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne du laïc s'insère dans la vie de l'Église, puis la vie de l'Église, elle s'accomplit par l'intermédiaire, tout d'abord, de la paroisse, tout simplement, oui. À l'intérieur des paroisses vivantes, il se passe des choses. Quand le curé peut trouver du monde, ou du moins s'il a le cœur suffisamment ouvert pour accueillir les gens, et puis c'est pas facile, très difficile. Mais on peut aller aussi dans des mouvements. Et le laïc se sent solidaire alors d'une action, d'une activité commune, d'une vie collective, d'une église à sa dimension, petite église, comme celle des Rameurs sans frontières et tant d'autres. Et là encore, il y a une découverte à faire de ce qu'est la mission des laïcs dans l'Église. Pour distinguer ici, comme deux plans, les activités du laïcat dans l'Église, le laïc doit aider l'Église, en tant qu'institution, dans ses activités proprement ecclésiastiques, non seulement par une participation active à la messe, par des dons en argent, mais aussi en enseignant les idées chrétiennes doucement, en témoignant, en étant vraiment chrétien. Le laïc chrétien participe activement à la vie paroissiale et à la vie diocésaine, en ayant une vie rayonnante de charité. Mais sa job de chrétien ne se borne pas là. Ce serait une tentation pour lui de penser qu'après avoir chanté à l'église, visité un malade à la paroisse, donné un coup de main à son curé pour un bazar, ou même enseigné le catéchisme à des enfants, il en est quitte avec les exigences de la vie chrétienne. C'est très bien de faire tout ça. Je blâme pas les gens qui le font. Au contraire. Toute sa vie est engagée par le Christ. Il faut que tout ça soit engagé dans le Christ, par le Christ. Et en chacune de ses activités, vie de famille, vie de quartier, vie de travail, il a à faire pénétrer l'esprit évangélique, la charité du Christ. Et c'est là le principal dont rien ne saurait le dispenser. L'apostolat est illimité. Être un apôtre, ça n'a pas de limite. Ça a les dimensions même de la vie. L'apostolat ne représente pas quelques heures par semaine, mais toutes les heures de la semaine, on pourrait dire. Toutes les heures. Il exige une attention continuelle du chrétien. Pour saisir quoi? Pour saisir que dans sa vie, eh bien, l'appel du Christ pour comprendre la nécessité d'un redressement de mentalité, là, il est toujours là. Le besoin des âmes, le sens des événements, ça doit l'habiter. Et ça se fait d'abord, ça, dans la famille, évidemment. Le mari à l'égard de sa femme, l'épouse à l'égard de son mari, et les enfants. Et les vieux parents, peut-être, qui habitent là. Et cette forme d'apostolat, partout, ne dispense pas non plus de la première. Les deux formes se complètent, la famille et la société, tout. Le chrétien doit à la fois soutenir de son activité, me semble, les institutions d'Église, et faire passer l'Esprit du Christ dans toutes les activités du monde. Il y a un mouvement actuellement qui s'appelle « Nous sommes l'Église », mais qui ne peut contre l'Église, on dirait. Je me demande, pourquoi ne pas être de l'Église et avec l'Église? Oh, on a des reproches à faire. C'est bien compliqué, tout ça. En tout cas, c'est dans le dernier rôle des activités du monde que le laïc découvre de plus en plus la fonction la plus spécifique de son apostolat de laïc. Parce que le laïc est irremplaçable dans ce rôle. Ce rôle est immense. Regardez les rameurs sans frontières, ils en savent quelque chose, et tous les autres, les centaines et les centaines et les centaines d'autres mouvements. Je parle de celui-là parce qu'il est plus près de Radio Ville-Marie, juste à côté. Parce que l'apostolat des laïcs rejoint la vie, étant à faire pénétrer l'Esprit du Christ dans toute la vie. Il s'insère dans des milieux de vie, et l'homme est lié maintenant, par son travail, par ses loisirs, par son instruction, puis son information, à des milieux beaucoup plus larges que celui de la paroisse. Et c'est pourquoi, pour rejoindre la vie, l'apostolat laïque doit s'insérer dans des mouvements, puis des groupes qui dépassent le cadre paroissial, puis visent l'évangélisation des milieux. Ça va jusque dans les hauteurs, ça. Regardez Adenauer, le président de l'Allemagne. Regardez Robert Schuman qui disait son bréviaire et qui était ministre des Affaires étrangères de France au moment de la dernière guerre. Et tant d'autres, Giorgio Lapira qui était maire de Florence et qui était un homme d'une foi profonde. Mais c'est plein. Il y a beaucoup de gens, d'hommes dans la politique qui sont de grands chrétiens en Europe, mais il en faudrait ici aussi. J'espère qu'il y en a. Cette évangélisation doit atteindre progressivement par la présence et l'amitié des chrétiens les personnes qui composent ces milieux-là, par leur action puis leurs exigences chrétiennes. Alors, beaucoup de chrétiens vivent en ce monde, inconscients de ce poids d'égoïsme et d'ambition, puis de cupidité, puis de domination de l'argent qui pèse sur la liberté du monde, puis dès qu'ils figurent ces traits-là, il faut s'engager, c'est à nous. La prise de conscience du péché du monde amène le laïc, quel que soit son milieu, à se tourner vers le Christ sauveur, le Christ libérateur, et c'est ce qui fait... C'est ce qui se fait dans ces communautés chrétiennes en Amérique du Sud sous la conduite des évêques. J'avais interviewé le cardinal Arns, qui était un homme admirable, et Mgr Elder Camara et Mgr Romero, ces évêques qui dirigent les laïcs dans des tâches de toutes sortes, au risque de leur vie, mais pour la liberté des pauvres gens exploités, diminués. Car nous sommes chargés d'une tâche en ce monde, nous, les laïcs, et nous devons l'accomplir en chrétiens. Puis lui, il nous faut construire un monde chrétien. Mais il faut être appuyé. Faut être appuyé par nos prêtres. Ainsi, l'apostolat des laïcs mesure de plus en plus. Il ne vise pas seulement des personnes, mais aussi des institutions. et c'est chaque personne qui souffre. Et la société elle-même, sociale, il faut tout ramener ça au Christ. Une société sans le Christ, c'est une société, à mon avis, qui manque de lumière, d'éclairage, qui manque d'âme. Et pour convertir, il faut évangéliser. C'est facile alors de comprendre que le laïc ne peut être apôtre en dehors des conditions concrètes dans lesquelles il se trouve. Alors pour lui, vivre en plénitude sa situation dans l'Église d'aujourd'hui, ben ça va devenir la définition de sa vie apostolique. Et là, la sainteté qu'on pourrait appeler sainteté du devoir d'État surgit. On en parle plus du devoir d'État, mais il faut absolument rendre une vigueur nouvelle à ce vieux mot « devoir d'État ». Oui, le devoir d'État, oh, ça évoque trop facilement une sorte de job fixé d'avance, là, imposé du dehors, on fait sa job, son devoir d'État. C'est fini là. Mais il faut réviser ça pour rendre ce terme acceptable à une conscience moderne, là. Bon, changeons les mots. On aimerait mieux actuellement parler des exigences chrétiennes de la situation du laïc dans le monde et dans l'Église. Et dire que tout revient pour lui à répondre à l'appel du Christ dans la situation qui est la sienne. Cela signifie d'abord, donc, que la sainteté du laïc est pas faite d'une série d'emprunts à la vie monastique, comme moi j'essaie de le faire un peu, parce que j'ai une âme de bénédictin dans le monde, et je m'en excuse. C'est pas de participer aux activités cléricales, comme je fais peut-être en faisant ces émissions-là. Tout pour le chrétien laïc doit être unifié du dedans, par les exigences même de son état. Puis sa piété n'est pas faite d'une série d'exercices incrustés là, dans une vie toute profane, mais sa religion est sa vie, même mise à la disposition du Père par la prière, par la messe, par les sacrements, par le silence, comme par la parole. La parole, son ascèse au laïc, ne comporte pas d'abord un certain nombre de pratiques de pénitence, ajouter du dehors à une vie trop facile. Non, c'est pas nécessairement ça. C'est l'ascèse du laïc, c'est sa vie même de travail qui est souvent très dure. Sa vie de famille qui est très lourde, souvent. Sa vie de relation, oui, consentie avec toutes ses exigences de détachement, de dévouement, d'oubli de soi et d'union à Jésus. En pensant à Jésus crucifié, en particulier, il y a rien de mal là-dedans. Il y a des gens qui disent c'est une. Mieux vaut penser seulement au Christ ressuscité. Ben je pense au Christ crucifié et ressuscité. C'est pour ça que j'ai des crucifix et des croix dans toutes mes pièces. Moi, je me rappelle que pour passer vers la résurrection, il faut savoir se crucifier. Et son action apostolique aux chrétiens, aux catholiques. Ce n'est pas d'abord un certain nombre de bonnes œuvres ajoutées comme ça pour occuper ses loisirs. Hein? Non. C'est toute sa vie. La vie dite profane, là, que nous sommes chargés, nous, de sanctifier. Toute notre vie vécue dans l'Église. C'est-à-dire au service du Christ pour faire passer l'Esprit Saint dans toute l'épaisseur des activités du monde dont nous faisons partie. C'est ça. Est-ce que c'est assez clair? Notre sainteté de laïc, c'est de devenir pleinement ce que nous sommes. Nous sommes membres du Christ. Nous vivons de la vie du Christ dans toutes ses activités extérieures. Oui, nous devons vivre dans toutes nos activités extérieures, la vie du Christ, dans toutes nos réactions intérieures aussi. Fils de Dieu le Père, vivant ce monde pour y apporter l'amour du Père, partout, à tout instant, pour la révélation du Père à toute l'humanité. C'est l'année du Père et nous devons révéler le Père, l'amour du Père à toute l'humanité. Mais aussi, nous sommes fils de l'homme pour achever le monde par notre travail. Achever l'humanité par notre famille. Achever l'unité des hommes par toutes les institutions, tous les progrès, toutes les beautés qui unissent toute l'humanité dans le même amour. Vraiment, la sainteté du laïc, c'est de continuer la vie du Christ incarné, d'achever sa mission d'évangélisation du monde par l'Église. Oui, par l'Église. Aimons notre Église. Et pour finir, bien, il faut communier. Communier au mystère du don total, dans l'action et dans la passion pour un rayonnement catholique. Il faut se donner. Et toute notre vie personnelle, toute notre action, toute notre vie familiale nous amène à réaliser progressivement que nous ne pouvons être nous-mêmes qu'en Jésus et par lui. Le Christ est notre Sauveur. Et à notre manière propre, puis à la manière propre du Christ, nous pouvons redire, avec saint Paul, ma vie c'est le Christ. Et le Christ disait, ma vie c'est le Père. Il le sentait. Et avec lui, en lui, par lui, je veux libérer le monde de la platitude, de l'ennui, du péché, de l'égoïsme. Le libérer du suicide, de l'avortement, de l'euthanasie, de la mort. Je veux que le monde vive dans la joie. Et si nous avons rencontré des laïcs qui approchent de cet idéal, nous avons eu le sentiment très vif que notre époque est en train de faire une découverte spirituelle. Et sans doute, il faut le reconnaître, cette invention ne va pas sans difficulté. Cette découverte ne va pas sans difficulté, sans tâtonnement. Cette découverte ne va pas sans risque. Du fait même que le laïc chrétien est sans cesse mêlé à toute la vie d'un monde non chrétien. Mais du fait qu'il a mis sa charité non à s'en retirer, mais à s'y engager, ben il y a pour lui un danger. Un danger constant de se laisser gagner par l'esprit du monde, de se laisser envahir par ses réactions, de participer à sa mentalité, ou, comme on dit en langage évangélique, de s'affadir. Et Dieu vomit les fades, les tièdes, et par le fait aussi que le laïc adopte des attitudes nouvelles, même s'il garde l'esprit d'évangile, il risque d'étonner, peut-être de scandaliser d'autres chrétiens, qui ont mis leur perfection à adopter d'autres attitudes. Et alors, il faut savoir discuter, essayer de trouver vraiment ce qu'il faut faire. Et quelle serait la première marque de ce chrétien des temps modernes? Eh bien, évidemment, sa vie religieuse ne peut plus être soutenue simplement par des structures sociales, comme autrefois. Ici, au Québec, tout était catholique, alors on était soutenu, on était catholique. Parce que la pression sociale, aujourd'hui, ne joue plus dans la plupart des cas en faveur de la vie religieuse. Au contraire, tout détruit ce qui est vie religieuse. Et c'est ce qui explique en partie la défection des masses. Les gens s'écroulent autour de nous. Et c'est triste, nous n'avons pas à les juger. Il faut leur tendre le bras, la main. Il faut vraiment aider. Oui, aider. Il faut sauver. Il faut aux chrétiens modernes une conviction personnelle sans quoi ils perdent bientôt toute religion. Ah, si Radio Ville-Marie était plus connue, on n'en parle pas nulle part. Personne parle de nous. Presque. Parlez de Radio Ville-Marie. Faites que les prêtres en parlent en chair, que les évêques en parlent. Il faut que notre vie chrétienne n'est plus soutenu du dehors par le cadre extérieur, soit animé du dedans par des convictions qui peuvent venir justement par Radio Ville-Marie, par des retraites, par des soirées de prière, par des moments de lecture sérieuse. L'homme moderne est toujours plus ou moins un déraciné, et si sa foi et sa vie religieuse font corps avec les habitudes puis les coutumes d'un milieu social, coupé de ce milieu de sa religion s'effondre. C'est ce qui est arrivé ici, on le voit. On le voit même chez des immigrants qui viennent de pays très catholiques et qui s'y s'effondrent. On le voit chez des gens de la campagne qui appartenaient à des paroisses très catholiques au loin. On voyait ça encore il y a 10 ans. Arriver à Montréal, s'écrouler. Ah, si au contraire, notre vie chrétienne à nous est soutenue par une conviction puis une foi personnelle, elle est dans ses principes, alors susceptible d'être transplantée dans toute espèce de milieu puis on peut aller travailler et être chrétien. Cette vie chrétienne pourrait aussi bien être caractérisé par un progrès de liberté chrétienne, de cette liberté par laquelle le Christ nous a libérés intérieurement. Mais il faut une vie intérieure. Il faut rencontrer le Christ. Oui, c'est là qu'il faut en venir pour saisir à leur source tous les caractères de cette vie nouvelle à laquelle nous, laïcs, nous sommes appelés au centre de cette intériorité, de cette liberté, de cette communauté. Il y a la rencontre personnelle du Christ, notre amour. Celui dont la foi chrétienne et la pratique religieuse étaient soutenues par les structures sociales autrefois, pouvait peut-être rester dans une demi-inconscience du rôle personnel du Christ dans sa vie. On disait Jésus, on disait même pas Jésus, on disait le Seigneur. On n'en parlait presque pas du Christ. Il était soutenu par le groupe, puis le groupe dirigé par le Christ. Et puis ça ronronnait plus que ça agissait, hein. Mais le chrétien qui doit vivre sa foi et affirmer sa charité dans des milieux humains dits indifférents ou hostiles, c'est que si son âme n'est pas reliée au Christ vivant, il est perdu. Ce n'est plus seulement une loi qu'il lui faut pour le soutenir, mais quelqu'un au centre de sa vie, le Christ. Et c'est là, pour finir, le centre de tout, le point vers lequel tout converge. L'histoire du monde, en apparence profane, suscite des réactions de l'Église, ses souffrances, son action, ses entreprises nouvelles. Mais en tout cela, ce que Dieu cherche, c'est le regard personnel de l'homme et de la femme. Notre réponse d'amour. À travers tout, il attire à la connaissance personnelle et à l'amour personnel du Christ Sauveur. Cette rencontre personnelle du Christ illumine toute la vie, ne sépare pas des autres. Au contraire, nous savons bien que ce salut du monde n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est celui de la communauté chrétienne, de l'Église, réunie à travers le temps et à travers l'espace en un seul Christ, c'est-à-dire cette merveilleuse Église à laquelle nous appartenons, avec nos Églises sœurs. C'est la semaine de l'écuménisme et n'oublions pas de tendre la main à nos frères chrétiens séparés, douloureusement séparés. C'est pourquoi plus nous sommes unis personnellement au Christ Sauveur, plus nous faisons communauté chrétienne autour de lui, avec ceux qui nous entourent, et plus nous sommes unis, alors, dans toute notre énergie, notre vie, à toute l'Église. Et là encore, mais notre insertion change de qualité. Dès lors, c'est comme une nouvelle dimension de l'action puis de la vie de l'Église qui se révèle. L'expansion de l'Église, qui dès son origine a une intention catholique, universelle, s'est portée d'abord à répandre la foi jusqu'aux extrémités du monde et à implanter l'Église dans tous les pays du monde. Et là, il faut bien reconnaître cependant que même dans les pays où l'évangélisation est de longue date et la hiérarchie depuis longtemps structurée comme en Occident, la vie des peuples est loin d'avoir été pleinement évangélisée. Nous avons beaucoup de travail à faire. Il y a une dimension en profondeur qu'il faut atteindre. Il y a une urgence. Alors, qu'il s'agisse des masses ouvrières de l'Occident ou des masses de l'Extrême-Orient, nous savons maintenant que la découverte du vrai Dieu puis le message du Christ ne pourra les atteindre et les toucher qu'à travers l'expérience concrète, la concrète d'une charité incarnée dans la vie. J'ai essayé de faire ça, c'est très dur. J'ai adopté un itinérant, c'est très dur. 23 ans de misère et de souffrance, mais de joie. Une joie, j'ai jamais eu autant de bonheur. La vie chrétienne a ses contrastes entre l'horreur et la joie. La croix et la résurrection et le bonheur. Les masques s'égarent dans la nuit de l'athéisme. Et que nous rêvons de réunir à la catholicité, nous supplient, sans le savoir, ils savent pas, mais ils nous supplient de leur apporter la révélation du Christ vivant dans un monde vivant de l'Esprit du Christ. C'est ce qu'ils attendent, les athées, c'est ce qu'ils attendent de nous. Et notre tâche dans l'Église reste immense. Donc ça semble minuscule. Mais une fois de plus, c'est dans le cœur de Dieu qu'il se sert des plus petits comme moi pour faire les plus grandes choses et foi. Et des faibles pour confondre les forts. Priez bien pour nous tous ici. Priez bien pour nous tous qui rêvons. Que faire que notre peuple reçoive le Christ vivant?